Nous restons donc avec la question des relations extérieures avec le professeur Behram Adam de Tours qui va nous parler du partenariat économique entre l'Union européenne et le Japon.
Merci Monsieur le Président. Partenariat économique entre l'Union européenne et le Japon. Les relations entre l'Occident et le Japon, c'est vrai, ça remonte loin dans l'histoire. On se rappelle tous le Portugais qui a débarqué sur l'île de Kyushu en 1542, qui a été suivi par les missionnaires, puis après par les commerçants. Et suite à l'exposé du professeur Michumi, on a bien vu la fermeture de ce Japon à travers, bien sûr, le droit international. Et puis, durant toute la période Edo, puis après son ouverture avec l'ère Meiji, puis après les deux guerres mondiales, et puis le contact, l'affrontement, pas toujours chaleureux, c'est vrai, entre les deux mondes, entre l'Occident et dans lequel, bien sûr, on inclut l'Europe et le Japon. Plus particulièrement concernant les relations entre l'Union européenne et le Japon, il faut remonter à 1959. 1959, un an après les traités CE, ça commence les relations entre les deux pays et qui vont se développer et qui vont se renforcer. Disons, pour schématiser ces relations diplomatico-économiques, traverser trois phases, allons crescendo. Première phase, première étape, elle démarre en 1991, 18 juillet 1991, avec la signature d'une déclaration commune. Déclaration commune des relations entre la CE et le Japon. C'était le premier sommet Union européenne-Japon à La Haye. Et dans cette déclaration de 1991, eh bien, on a inscrit plusieurs principes de coopération, plusieurs principes notamment en matière de coopération économique. Et puis au niveau institutionnel, on a prévu des relations bilatérales, mais aussi des sommets annuels entre le Japon et l'Union européenne. Ça, 10 ans, c'est la première étape. Puis après, il y a eu la deuxième, 10 ans après. 10 ans après, c'était en 2001, 10e sommet. 10e sommet est tenu à Bruxelles, cette fois-ci entre l'Union européenne et le Japon. Et là, il y a eu un texte qui s'appelle le plan d'action Union européenne-Japon, Shaping Our Common Future, façonner notre avenir, qui instaure pour 10 ans, un programme pour 10 ans de coopération et de partenariat entre les deux ensembles. Et dans ce partenariat, dans ce Shaping Our Common Future, il y avait, disons, 4 corbeilles. 4 objectifs qui devaient être poursuivis dans ce partenariat. Tout d'abord, la promotion de la paix et la sécurité. Deuxièmement, le partenariat économique, le renforcement du partenariat économique et commercial. Et puis, la gestion des défis mondiaux. Et la dernière corbeille, c'est le rapprochement des peuples et des cultures. Ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est le deuxième objectif, surtout l'aspect économique. Alors, évidemment, dans ce texte qui faisait plus de 100 pages, l'objectif 2 concernant la coopération économique, ça se décline en plusieurs points. Je vous fais grâce de ce qui est prévu. Disons que sur cette base de ces accords, de ce plan d'action, eh bien, on a conclu plusieurs accords entre l'Union européenne et le Japon. Et pour ce qui nous concerne l'aspect économique, on peut citer 3 seulement. Il y a un accord de 2001 concernant la reconnaissance mutuelle. C'est-à-dire, en gros, on met en place des procédures, lesquelles procédures vont permettre la reconnaissance de la législation de l'un et de l'autre, pour pouvoir échanger. Il y a eu le deuxième accord, c'était en 2003, c'est concernant la coopération et les pratiques anticoncurrentielles. Et le troisième accord, ça concerne la coopération et l'assistance administrative en matière douanière. Donc, disons, c'est des accords plus de coopération, comment faire? Et puis arrive la troisième étape, 2010-2011, à nos jours. Le plan d'action dont je vous ai parlé venait à échéance en 2011 et le gouvernement japonais a proposé à l'Union européenne de conclure un accord de libre-échange. Et ce qui fait, lors du sommet, un 19e sommet en 2010, on a décidé de créer un groupe de haut niveau des techniciens pour discuter des modalités de la conclusion de cet accord. Et lors du 20e sommet, c'est-à-dire en 2011, 28 mai 2011, il a été décidé d'entamer des négociations parallèles, 2 négociations en même temps, un accord de libre-échange, Free Trade Agreement, et un accord de partenariat stratégique, Strategic Partnership Agreement. Donc, 2 accords, 2 négociations parallèles et qui ont démarré le 25 mars 2013. Alors, ce dont je vais vous parler, vu les informations dont nous disposons sur ces affaires, d'abord peut-être le cadre général, le contexte général de ces accords, puis après, dans un deuxième temps, voir un peu ce qu'il en est, qu'est-ce qui est prévu plus ou moins dans ces accords, le contenu de ces accords. Alors, s'agissant du cadre général de ces accords, le cadre général, bien, cette volonté de développer un partenariat économique s'inscrit bien sûr dans deux contextes majeurs. Le premier contexte, c'est le contexte stratégique. En premier lieu, le contexte stratégique. Comme on le sait, il y a une espèce de basculement vers l'Est, vers l'Asie, et il y a une politique américaine qui est menue, qui est maintenant dite de containment ou de pivot, ça dépend, de containment de la Chine, surtout la Chine qui a des ambitions un peu, disons, impériales dans le coin, avec la volonté de vouloir dominer toute la mer de Chine et les différentes îles et les problèmes qui ont eu lieu, et notamment, comme vous le savez, avec l'arrêt de la sentence arbitrale qui a été rendue en 2016, en juillet 2016, opposant la Philippine à la Chine. Et la Chine, comme vous le savez, a perdu, bien sûr, ce procès. Et bien sûr, il faut situer ça aussi dans le cadre des relations avec le Japon et la Chine, parce que les relations entre le Japon et la Chine ne sont pas des plus brillantes. Ces relations-là, notamment à cause des îles Senkaku, mais pas seulement. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il y a aussi un rapprochement dernièrement entre le Japon et Poutine. Je crois qu'ils se sont rencontrés en mai dernièrement pour discuter d'un partenariat là aussi pour encercler en quelque sorte la Chine. Alors, bien sûr, ça c'est le contexte général, le contexte stratégique. Mais il faut voir aussi l'autre contexte, qui est le contexte plutôt économique, qui explique cette volonté de développer ce partenariat. Alors ici, il y a deux aspects. S'agissant de l'aspect économique, il y a l'aspect mondialisation et il y a bien sûr l'aspect spécifique aux relations entre l'Union européenne et le Japon. S'agissant des exigences de la mondialisation, tout le monde sait que les accords OMC, que les négociations dans le cadre de l'OMC sont en panne depuis Doha, c'est dans l'impasse. C'est dans l'impasse, et du moment que c'est dans l'impasse, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on développe des accords bilatéraux ou multilatéraux de zones de libre-échange. Il y a une espèce, je qualifierais ça, de densification des réseaux de zones de libre-échange, et dans ce contexte, parallèlement aux négociations entre l'Union européenne et le Japon, en même temps que ces négociations entre l'Union européenne et le Japon, il y a quatre autres grandes négociations qui sont en cours ou qui sont finies. Alors, il y a tout d'abord les négociations concernant le partenariat transpacifique, l'accord a été signé en février 2016 et qui regroupe 12 pays dont le Japon. Il y a les États-Unis, le Canada, le Mexique, Chili, Pérou, Malaisie, Vietnam, Singapour, etc., etc. Ce partenariat transpacifique, il est énorme. Ça fait 800 millions d'habitants et 40% du BNB mondial. Mais en même temps, cette zone de Pacifique, elle est très importante parce que dans cette zone, il y a une densité, je dirais une fièvre, qui s'est emparée de cette région en ce qui concerne les accords de libre-échange. À titre d'exemple, accord de libre-échange l'ASEAN-Chine, 4 novembre 2002, ASEAN-L'Inde, 8 octobre 2003, ASEAN-Corée, 2 juin 2009, ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande, février 2009, ASEAN-Japon en 2003, l'accord est entré en vigueur en 2008, sans compter l'accord de très grande importance sous la houlette de la Chine qui s'appelle le Partenariat Régional Économique Global, Regional Comprehensive Economic Partnership, qui rassemble le Japon plus 10 autres pays de l'ASEAN, plus la Corée, plus l'Inde, plus la Nouvelle-Zélande. Et ces négociations sous la houlette de la Chine ont débuté en 2013 et qui se poursuivent. Le dernier round a eu lieu en juin dernier, à Singapour. Donc ça, il y a ce partenariat transpacifique, plus toute cette partie de l'Asie. Sans compter, j'ai oublié de vous dire aussi, il y a tout un réseau de densification de ces accords de zones de libre-échange en Méditerranée du Sud, entre l'Union européenne, bien sûr, et les pays du voisinage. En même temps que ces négociations, il y a aussi le partenariat transatlantique, qui est en négociation, débuté en 2013. Là aussi, c'est des négociations très importantes. En même temps, il y a eu les négociations Union européenne-Canada concernant l'accord économique commercial global qui a démarré en 2009. L'accord a été signé en 2016. Et en même temps, on a conclu avec le Canada, l'Union européenne et le Canada, le partenariat stratégique qui a été conclu avec, enfin signé, pardon, en 2015. Et la quatrième négociation, c'est avec le Vietnam, Union européenne-Vietnam, engagée en 2013, qui ont abouti, là aussi, à des accords, un accord de libre-échange qui a été paraphé en janvier 2016 et un accord concernant le partenariat avec ce pays stratégique de 2012. C'est donc dans ce réseau d'accords multiples, bilatéraux, multilatéraux, entrelacés, embriqués, enchevêtrés, que s'inscrivent les relations entre le Japon et l'Union européenne. L'objectif, bien sûr, pour les deux parties, est de faire face à la concurrence de la Chine, mais aussi des pays de l'ASEAN. Alors, ça s'inscrit donc, ces exigences, dans le cadre de la mondialisation. Ce partenariat s'inscrit dans ce contexte général. Ce partenariat Union européenne-Japon s'inscrit également, bien sûr, par les exigences économiques des deux parties, l'Union européenne et le Japon. Alors, s'agissant donc des relations économiques entre les deux ensembles, entre l'Union européenne et le Japon, il y a la question des investissements. Ce qu'il faut savoir rapidement, c'est que, sans donner vraiment les chiffres, l'Union européenne est le premier investisseur au Japon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Japon, il est le deuxième investisseur dans l'Union européenne. Et donc ça, c'est quelque chose de très très important des deux côtés. Donc il y a une logique de renforcer ces investissements. Pour les aspects commerciaux, en 2015, d'après les chiffres de 2015, le Japon est le septième partenaire commercial de l'Union européenne. Il est le septième, ça dépend, c'est pour le sixième, je crois, pour les importations, le septième pour les exportations, je mélange un peu les chiffres. Mais disons en gros, de la période 2005 à 2015, il y a eu un recul dans les échanges entre les deux ensembles, donc sur ces 10 ans, 2005-2015, il y a eu une chute. Les exportations à destination du Japon, de l'Europe vers le Japon, sont passées de 4,2% du total des exportations européennes, et sont passées de 4,2% à 3,2%. Et au cours de la même période, les importations du Japon sont passées de 6,3% du total des exportations de l'Union à 3,5%. Donc, au niveau des échanges, il y a une baisse nette manifeste. Donc, c'est dans ce contexte économique, politique, stratégique que s'inscrivent les négociations nippo-européennes. Inutile de rappeler ici que ces négociations sont opaques. C'est un peu comme ce qu'on connaît maintenant avec le partenariat transatlantique. Peu d'informations sur le déroulement de ces négociations. Le seul rapport qu'on a eu un peu, c'est concernant le 16e round des négociations qui a eu lieu à Tokyo du 11 au 20 avril 2016. On a un petit rapport, un petit résumé, mais qui n'avance pas le schmilblick. Hein. Mais rien sur le partenariat stratégique. On n'a aucune information. Voilà pour le contexte. Maintenant, voyons un peu le futur de ce partenariat, le partenariat Union-Japon. Alors ici, je me pose deux questions, faute d'informations. La première question auxquelles j'essaierai de me répondre, quelle est la nature juridique de ce partenariat Union européenne-Japon? Alors, quelle est la nature juridique? Première remarque, ce partenariat s'inscrit dans la technique juridique de la double détente. Technique juridique de la double détente, c'est-à-dire quoi? En fait, cette technique, elle s'inscrit dans ce qu'on appelle la stratégie globale développée depuis 2006 par l'Union européenne. Stratégie globale développée depuis 2006, sur la base de cette stratégie de 2006, l'Union a déployé dans ses relations avec les pays émergents et avec les pays développés un partenariat à double détente. Ce partenariat à double détente repose sur la conclusion avec ces pays d'un double accord lié. Un accord dit de partenariat et de coopération, l'APC, et un accord de libre-échange. Double accord lié, les deux sont liés, un accord de partenariat et un accord de libre-échange. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que cette technique n'a pas été utilisée avec les États-Unis dans l'accord transatlantique qui est en train d'être négocié. Mais cette technique de double accord lié, de double détente, est inaugurée en 2010 avec l'accord avec la Corée du Sud, poursuivi avec certains pays de l'ASEAN, la Thaïlande, l'Indonésie, Singapour, Philippines, Malaisie, Vietnam. Par exemple, pour le Vietnam, il y a eu un accord de partenariat en 2012 et l'accord de libre-échange vient juste d'être paraphé en 2016. Cette technique a été reconduite, de double détente, a été reconduite dans l'accord Union européenne-Canada. Union européenne-Canada, puisque avec le Canada, on a un accord de partenariat stratégique signé en 2015 et un accord de libre-échange signé en 2016. Et je pense, c'est même l'évidence, c'est la même technique utilisée ici, puisqu'on a les deux accords, libre-échange, accord de partenariat, qui sont liés, emboîtés les uns dans les autres. Ça, c'est la première remarque concernant cet aspect juridique. Deuxième remarque concernant l'aspect juridique de ces futurs accords, c'est qu'ici, visiblement, on est dans ce qu'on appelle le jargon communautaire européen, dans la compétence partagée, partagée entre l'Union européenne et les États membres, puisque, d'abord, l'accord de partenariat stratégique, bon, là, on est vraiment dans la compétence partagée. L'accord de libre-échange, il traite tellement de domaines, pas seulement les aspects commerciaux, que ça ne peut être qu'un accord partagé, relève de compétences partagées, avec évidemment toutes les conséquences que ça peut poser. Parce qu'il faut donc à ce moment-là que ce soit ratifié par les 28 ou les 27, si on n'est que 27 d'ici là. Donc ça peut poser des problèmes juridiques. Rien n'est réglé de ce côté-là. Alors, deuxième question, après la nature juridique possible de ces accords, quel est le contenu possible de ces deux accords ? Alors, là aussi, pas grand-chose donc d'information, à part la directive de négociation. Directive de négociation qui a été adressée par le Conseil et la Commission en 2012. Là, on a une directive, il dit, voilà, on va négocier sur ça, sur ça. Mais sur l'accord de partenariat stratégique, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on peut dire ? À partir des informations que j'ai glanées à droite, à gauche, je pense que ces deux accords vont reproduire le même schéma. Même schéma, c'est-à-dire les accords qui ont été conclus par l'Union européenne avec le Canada et avec plusieurs pays de l'ASEAN. Alors, s'agissant d'abord de l'accord de partenariat stratégique. L'accord de partenariat stratégique, à mon sens, il reproduira vraisemblablement les clauses politiques standards qu'on trouve dans ce type d'accord de partenariat stratégique. Parce qu'on a plusieurs clauses qui se répètent, c'est toujours le même modèle, la clause des droits de l'homme, la clause de la Cour pénale internationale, la clause des armes de destruction massive, les clauses sur l'immigration, les clauses sur le terrorisme, des clauses sur la fiscalité, sur le développement durable, sur la coopération judiciaire, etc., plus bien sûr le cadre institutionnel. Donc, vraisemblablement, on va reprendre ces clauses standards. Et d'ailleurs, il y a un blocage actuellement, justement s'agissant de cette clause standard, puisque l'Union européenne inscrit dans les accords de partenariat une clause sur les droits de l'homme. Le non-respect des droits de l'homme est une clause essentielle en droit international public. Si l'État ne la respecte pas, on dénonce l'autre accord, l'accord de libre-échange. Voilà le lien, par exemple, un des liens entre les désaccords. Et les Japonais ne veulent pas de cette clause concernant les droits fondamentaux. Les Européens, ils veulent cette à cause de la peine de mort au Japon. Ils veulent faire pression sur les Japonais pour l'abolition de la peine de mort. Et puis, ils font pression sur les Japonais parce qu'ils pensent faire la même chose avec la Chine. Ils pensent conclure un accord, double détente, et donc, pour le respect des droits de l'homme, ça va être un exemple en quelque sorte. Voilà pour l'accord de partenariat stratégique. Alors, voyons maintenant l'accord de libre-échange. Bien, là, on retrouve la même chose qu'on trouve ailleurs. C'est la libération progressive, réciproque des échanges, la suppression des obstacles, surtout non tarifaires. Parce qu'en fait, ce qui intéresse l'Union européenne, c'est le problème des barrières non tarifaires au Japon. C'est ça qui empêche les produits français de rentrer au Japon. C'est les barrières non tarifaires et ça concerne l'automobile, le chemin de fer, les produits électroniques, agroalimentaires, pharmaceutiques. Et là, un véritable barrage et ça pose vrai problème. Et d'ailleurs, dans le dernier rapport de la Commission, un des blocages des négociations, c'est justement ces barrières non tarifaires. Non tarifaires, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, on discute, marché public. Et là, idem, problème, le Japon est fermé au marché public. Et donc, là, pour l'instant aussi, il y a des blocages. Et puis, s'agissant toujours de cet accord de libre-échange, et parmi les blocages, c'est la question du mécanisme d'arbitrage. Puisque dans ces accords, on va inclure, bien sûr, un mécanisme d'arbitrage général entre les parties. Mais il y a le problème qui pose problème, c'est l'arbitrage concernant les entreprises contre les États. Et là, les Japonais seraient bien d'accord qu'on mette la même chose que dans l'accord transpacifique. Parce que dans l'accord transpacifique, il est permis, enfin on a prévu qu'il y ait l'arbitrage, une entreprise peut très bien attaquer un État pour tel et tel. Et les Européens ne veulent pas de ce système, pour l'instant, ils ne veulent pas de ce système, ils voudraient quelque chose qui ressemble à tout le moins à ce qu'on a prévu avec le Canada. Avec le Canada. Voilà les quelques informations dont je dispose et je vous remercie de votre attention.